family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. But remember to tag them first for identification purposes.
Et à tous, c'est la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs comme chaque semaine sur Radio Air Libre, le vendredi de 9 à 10 heures et le samedi de 14 à 15 heures, le samedi pour la rediffusion de l'émission du vendredi, comme ça vous avez le choix. En fond sonore, Duke Ellington and his orchestra dans Take the A-Train, de quoi vous présenter cette émission et son sommaire. Et bah, commençons pour une fois avec le sommaire, effectivement, trois sujets dans cette émission, et on verra bien où on arrive avec le troisième et éventuellement un quatrième. On va d'abord parler d'un sujet plutôt écologique en lien avec l'option militaire et les dépenses militaires. Un document qui vient de sortir, comment les dépenses militaires accélèrent la dégradation du climat. C'est un rapport qui est communiqué par le GRIP, le groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité. Puis aussi le MIR France, le mouvement international de la réconciliation qui est né en 1920 après la Première Guerre mondiale. Et la branche française fête cette année-ci son centième anniversaire, l'occasion pour nous d'attirer votre attention sur cette organisation dont on avait déjà parlé il y a 2 ans, mais ici on va surtout parler de la branche française. Et puis un document qui date déjà d'un petit temps, puisqu'il date de décembre 2021, et il s'agit d'un texte provenant de l'association flamande Vrede qui marque les fissures dans le consensus sur la doctrine nucléaire de l'OTAN. Et je pense que c'est utile de revenir à un texte d'avant le début de la guerre en Ukraine, dans la mesure où effectivement les choses peuvent s'être aggravées depuis lors. La musique adoucit les mœurs, chaque semaine vous propose des musiques, des chansons, des réflexions qui ont toutes trait au même sujet, c'est-à-dire la paix et la recherche de la paix, la non-violence et surtout la lutte contre tous les obstacles à la paix et à la non-violence, que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine privé, car il y a aussi des violences au sein des familles, comme vous le savez, ça s'appelle des violences conjugales. Il y a aussi des armes dans la population, il y a aussi un grand déficit dans ce qu'on appelle habituellement l'éducation à la paix. Et donc voilà toute une série de sujets qui sont abordés semaine après semaine dans cette émission. Mais comme je viens de vous le dire, il y a aussi des chansons. Et je vous propose de commencer l'émission d'aujourd'hui avec Henri Dès, enregistré en 1979 à la fête de la chanson romane. Et la chanson s'appelle Maria Consuelo.
Maria Consuelo, où est passé ton frère? Maria Consuelo, où est passé ton frère? Il est parti, mon frère, par les champs, par les bois. Il est parti, mon frère, à la guerre. Maria Consuelo, où est passé ton père? Maria Consuelo, où est passé ton père? Il est passé, mon père, par les champs, par les bois. Il en est mort, le père de la guerre. Maria Consuelo, où est passé ton fils? Maria Consuelo, où est passé ton fils? Je l'ai caché, mon fils, par les champs, par les bois, jusqu'à ce que finisse la triste guerre. Maria Consuelo, je l'ai revu, ton fils. On l'avait endormi contre un mur au soleil. On l'avait endormi, petite mère.
L'augmentation des dépenses militaires au niveau mondial, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine, aggrave la crise climatique en ce qu'elle accroît les émissions, accapare des fonds et alimente les conflits dans les pays les plus vulnérables du climat. C'est ce que révèle un nouveau rapport diffusé le jeudi 11 mai, c'est donc tout récent. Il est intitulé « Le climat victime collatérale des dépenses militaires » et réalisé, produit par Transnational Institute. C'est une organisation de recherche internationale en collaboration avec Stop Wapenhandel, donc arrêt du commerce des armes des Pays-Bas, et Tipping Point North-South du Royaume-Uni, soutenu aussi par le groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, qu'il a traduit en français, et c'est d'ailleurs à partir de ce texte en français transmis par le GRIP qu'on va vous parler de ce sujet où on voit une fois de plus les guerres, les conflits, la préparation de ceux-ci et les suites de ceux-ci engendrent de gros problèmes au niveau écologique et pas uniquement par la pollution que représentent les armes non explosées et le danger pour les populations qu'elles explosent quand même, un sujet que Handicap International, par exemple, connaît bien. Mais donc, ces différentes associations se sont donc réunies pour alerter, une fois de plus, les autorités et les populations, mais surtout pour faire passer l'information comme quoi les nations les plus riches dépensent 30 fois plus pour leurs armées que pour le financement climat. C'est une nouvelle étude donc, qui est diffusée et dont je vais vous proposer une petite partie. En tout cas, l'étude fait 49 pages, je ne vais pas vous les lire en détail. Par contre, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations provenant de ce communiqué et les références sur la page Facebook de l'émission « La musique adoucit les mœurs ». N'hésitez pas à vous faire membre de cette page si vous le désirez. Vous verrez qu'il y a une série d'informations qui concernent les sujets habituellement traités dans cette émission radio. Et évidemment, il y a des choses qui passent mieux en visuel qu'en radio. Et donc, ou bien des choses aussi qui sont peut-être plus difficile à transmettre par la voix orale que par l'écrit. Alors n'hésitez pas donc à aller sur cette page et aller y jeter un coup d'œil et vous y trouverez donc les références et une partie en tout cas de cette étude de TNI, Transnational Institute. En fond sonore, la symphonie numéro 41 dite Jupiter de Mozart, interprétée ici pour nous par le Wiener Philharmoniker sous la direction de Leonard Bernstein. Quand je dis interprétée pour nous, c'est évidemment très facile et c'est gratuit comme affirmation. Mais ça va nous être bien utile pour vous parler de cette nouvelle étude. Donc, les nations les plus riches, appelées les pays de l'annexe 2, dans les négociations des Nations Unies sur le climat, dépensent 30 fois plus d'argent pour leurs armées que pour le financement climat. L'augmentation des dépenses militaires a mené à une hausse des émissions militaires de gaz à effet de serre, dont on estime qu'elles représentent actuellement 5,5% du total des émissions de ces gaz. Au lieu de fournir des financements climat, les pays de l'annexe 2, les plus riches donc du monde, les pays de l'annexe 2 vantent des armes à 40 des nations les plus vulnérables au changement climatique, alimentant ainsi les conflits et l'instabilité à mesure que la crise climatique s'aggrave. Le rapport se penche sur les déclarations de certains membres de l'OTAN, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, qui disent combattre le changement climatique en verdissant leurs armées. Le rapport détaille les différents objectifs déclarés de zéro net, mais ne trouve rien qui étaye la capacité des armées à réduire significativement les émissions de leurs avions, navires et autres tanks, donc les chars, tous fortement dépendants des carburants fossiles et pour lesquels les alternatives sont soit inexistantes, soit entraînent d'inacceptables coûts sociaux et environnementaux. J'ai su à une certaine époque ce que consommait un char style char Léopard. C'est pas 3 litres au 100, hein, ça c'est clair, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et lors de la guerre en Irak, les Américains avaient les fameux Hummer, espèce de grosse Jeep moche et tout, et c'est le genre de bazar qui consomme 20 litres au 100 comme rien. Alors je vous parle pas des navires et des avions, c'est encore pire, bien entendu. On n'a pas lésiné sur les moyens à ce niveau-là. Avec donc des conséquences inacceptables en termes de coûts environnementaux et sociaux, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme vous le savez. Le rapport, ici, donc le rapport de TNI, a été rédigé avant la publication des derniers chiffres sur les dépenses militaires, donc le fameux rapport annuel du CIPRI. Ceux-ci ont montré que les dépenses militaires mondiales totales ont bondi vers un nouveau pic de 2 240 milliards de dollars US en 2022. On était à 1 700 milliards il y a quelques années à peine. Donc on a vraiment une forte augmentation. Pour l'Europe, l'augmentation d'une année à l'autre représente la pente la plus raide de ces 30 dernières années. Évidemment, avec le conflit, la guerre, les opérations spéciales, appelez ça comme vous voulez, en Ukraine. Et on ne parle pas ici de la reconstruction de bâtiments pour lesquels il faut du ciment, pour lesquels il faut du béton, et pour lesquels il faut d'abord faire pas mal de choses avec les anciens immeubles qui sont endommagés, etc., qu'il faut abattre. Alors, une citation de Nick Buxton, qui est un des co-auteurs du rapport. Ce rapport, écrit-il, prouve que le changement climatique est devenu le dernier dommage collatéral de la guerre. Il ne reste que quelques années pour remédier efficacement à la crise climatique, mais au lieu de ça, les armées du monde entier jettent de l'huile sur le feu. Au propre, comme vous figurez, presque. Les 2,2 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales, 2 200 milliards de dollars, voilà. On remet les choses près là, parce que bon, en anglais ou en américain, on parle de billions pour les milliards. Donc les 2,2 milliards de dollars de dépenses militaires mondiales signifient de l'argent détourné de l'action pour le climat, des émissions en hausse, des conflits alimentés dans les nations les plus vulnérables au climat. Il est urgent de procéder à une désescalade des tensions et de trouver des solutions pacifiques si nous voulons défendre notre planète. Aucune nation ne peut être en sécurité sur une planète en danger. Alors, il y a également une citation de Wendela De Vries, qui est chercheur au féminin chez Stop Wapenhandel, la campagne néerlandaise contre le commerce des armes, et elle, donc Wendela De Vries, a déclaré « En pleine crise climatique, nous avons besoin de sécurité pour tous et non pas seulement pour les pays riches. Au lieu de dépenser de l'argent pour les armes et de les vendre aux pays vulnérables, les nations riches devraient accomplir leurs promesses de financement climatique et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre militaire. » C'est pas les serres qui sont militaires, hein, ce sont les gaz à effet de serre, évidemment. Autre personne qui est intervenue par rapport à ce rapport, et cité dans le communiqué de presse, c'est Yannick Keogh, qui est le directeur du GRIP ici à Bruxelles. Le GRIP, écrit-il, salue l'initiative de ces trois organisations et a entrepris de traduire ce rapport en français dès sa parution, car il estime que son contenu mérite d'être diffusé le plus largement possible. Et il y a différentes formes. Il y a le communiqué de presse que je viens quasiment de vous lire intégralement. Il y a alors un résumé exécutif et une version complète du rapport. Ils existent en plusieurs langues. Le résumé exécutif, c'est-à-dire un résumé, quoi, est disponible en anglais, en irlandais, en espagnol, en catalan et en arabe, et bien sûr en français. Je vous ai mis le lien sur la page Facebook de l'émission Cocktail Nouvelle Vague. Et il y a également la version complète du rapport qui peut être consultée, téléchargée gratuitement sur le site du GRIP. C'est donc les www.grip.org. GRIP, G-R-I-P, bien entendu. Ce rapport complet fait 49 pages, y compris les illustrations de couverture et tout ça. Donc un peu plus de 40 pages, en tout cas de 45 pages, je pense, si j'ai bien regardé. Et donc, pour rappel, je viens de le dire, le titre de ce rapport, c'est « Le climat, victime collatérale des dépenses militaires ». Lors du sommet annuel sur le climat, la COP27, qui s'est tenue en Égypte en novembre 2022, écrit ce rapport, de nombreuses questions ont été abordées, mais les dépenses militaires ne figuraient pas à l'ordre du jour officiel. Pourtant, comme le montre ce rapport, les dépenses militaires et les ventes d'armes ont un impact profond et durable sur les capacités de faire face à la crise climatique, et plus encore pour le faire d'une manière qui favorise la justice. Chaque dollar dépensé pour l'armée augmente non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais détourne aussi les ressources financières de la lutte contre l'une des plus grandes menaces existentielles que l'humanité ait jamais connue, ainsi que les compétences et l'attention que celle-ci requiert. En outre, l'augmentation constante, des flux d'armes dans le monde entier jette de l'huile sur le feu climatique, attise la violence et les conflits, et aggrave les souffrances des communautés les plus vulnérables à la dégradation du climat. Les dépenses militaires et les émissions de gaz à effet de serre suivent la même courbe ascendante et celle-ci est abrupte. Les dépenses militaires mondiales sont en hausse depuis la fin des années 1990, bondissant depuis 2014 pour atteindre le montant record de 2000 milliards de dollars US en 2021. Pourtant, les pays même qui affichent les plus grandes dépenses militaires sont incapables de trouver ne serait-ce qu'une fraction des ressources nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, ni de prendre le moindre engagement en ce sens. Et ici, je suis dans le résumé. Mais donc, l'étude a mis en avant un certain nombre de points. Ainsi, les pays les plus riches et les plus responsables de la crise climatique effectuent davantage de dépenses militaires qu'ils ne contribuent financièrement à la lutte contre la dégradation du climat. Les pays les plus riches, donc ceux qui sont compris dans l'annexe 2 des négociations des Nations Unies sur le climat, dépensent 30 fois plus, 30 fois, pour leurs forces armées que pour financer les actions pour le climat dans les pays les plus vulnérables, ce qu'ils sont pourtant légalement tenus de faire. Donc c'est aider les pays les plus vulnérables, ce sont souvent aussi les pays pauvres, qui subissent les conséquences, entre autres, de l'industrialisation et des comportements des pays riches. Ils n'ont pas demandé à ce que ils contribuent très peu à la pollution, sauf s'ils devaient adopter le même style de vie que nous, évidemment. Mais donc, l'engagement a été que les pays riches aident ces pays à lutter là où ils n'ont pas les moyens de le faire, en tout cas. Et donc, c'est devenu une obligation légale, un engagement, en tout cas, par rapport à l'ONU, qui représente ici l'ensemble des pays de la Terre. Alors, autre constatation de l'étude, c'est que 7 des 10 premiers émetteurs historiques, donc ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre, figurent également parmi les 10 premiers dépensiers militaires mondiaux. Alors, par ordre de grandeur, il y a les États-Unis qui sont les dépenseurs militaires tout hors catégorie, disons, parce que dans les 2000 milliards, là, il y en a, je crois, 1700 qui représentent les dépenses militaires des États-Unis. C'est un budget énorme. Mais les autres sont pas mal non plus. Donc, les États-Unis, suivis par la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, le Japon et l'Allemagne, et les trois autres pays de ce top 10, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Inde et la Corée du Sud, sont également de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Évidemment, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est un gros producteur de gaz à effet de serre, même si c'est un pays en transition vers un développement industriel et sociétal qui fait qu'ils vont encore produire plus de gaz à effet de serre, effectivement. Les dépenses militaires ont augmenté, si on compare avec 2013 et sur 20 ans, ont augmenté de 21,3%, nous dit ce rapport. Il fait également référence à un rapport publié en 2022 par le Scientist for Global Responsibility. Selon ce rapport, l'empreinte carbone de l'armée mondiale, des armées, appelez ça comme vous voulez, ils sont mis ici, l'armée mondiale, voilà, représente environ 5,5% du total des émissions normales de gaz à effet de serre. À titre de comparaison, l'aviation civile représente 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On sait que ces gaz sont évidemment fort importants dans les changements climatiques, que ce soit le réchauffement ou des phénomènes hors normes, comme on en voit de plus en plus. Et donc, le rôle prépondérant même des gaz à effet de serre dans ce domaine. Autre constatation, c'est qu'en termes de consommation de carburant, si les forces armées du monde étaient classées comme un seul pays, elles seraient le 29e plus grand consommateur de pétrole au monde, juste devant la Belgique et l'Afrique du Sud. Selon d'autres estimations du Conflict Environmental Observatory, et de Scientist for Global Responsibility, l'empreinte carbone militaire annuelle est évaluée à 205 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone pour les États-Unis et à 11 millions de tonnes pour le Royaume-Uni. Quant à la France, elle compte pour environ un tiers des 24,8 millions de tonnes estimées pour l'Union européenne. La France, qui est avec le Royaume-Uni, une grosse puissance militaire, alors que qu'il fait partie des ensembles plus grands comme l'Union européenne, bien entendu, l'OTAN, mais donc se retrouve, comme je le disais là tout de suite, dans les pays les plus dépensiers au niveau militaire, après les États-Unis, champions toute catégorie, bien entendu. Alors, on allait peindre les casernes en vert, où on allait mettre un camouflage avec qui ressemblait de loin à une forêt, un bois, ou un truc comme ça. Et ça, c'est un peu peut-être la conception militaire d'une armée verte. Il y a aussi les uniformes kaki, et parfois, quand ils sont en opération, en exercice, les soldats se mettent du vert sur le visage comme ça pour qu'on les voit moins en regardant de loin. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment la possibilité d'ailleurs d'avoir une armée qui soit écologique, qui soit verte ou en tout cas plus verte? Selon le rapport, c'est pas tout à fait le cas, et c'est même impossible à prouver. Les forces armées des pays les plus riches vendent de plus en plus leurs efforts pour lutter contre le changement climatique, citant notamment l'utilisation de panneaux solaires sur les bases militaires, la construction de protections contre l'élévation du niveau de la mer et le remplacement des combustibles fossiles dans certains matériels militaires. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit davantage de battages médiatiques que de progrès substantiels. Dans la plupart des stratégies militaires nationales sur le climat, les objectifs de réduction sont vagues et non définis. Par exemple, la France affirme avoir réduit la consommation de combustibles fossiles de ses bases militaires de 22% depuis 2010 et s'engage à les réduire encore de 30%. Mais aucun objectif n'est fixé pour sa consommation de carburant opérationnel, qui est supposée couvrir 75% de la consommation d'énergie militaire. Alors, les armées n'ont pas su trouver non plus de carburant alternatif valable pour les transports et les équipements utilisés lors des opérations et des exercices. Ces carburants représentent 75% de la consommation d'énergie des armées. Le carburéacteur représente à lui seul 70% du carburant utilisé par les armées, suivi de la propulsion navale et dans une moindre mesure des véhicules terrestres. L'aviation militaire est confrontée aux mêmes défis que l'aviation civile. Les carburants alternatifs sont encore trop chers, leur disponibilité est limitée et ils ne sont pas durables. La plupart des objectifs déclarés de zéro émission nette reposent sur de fausses hypothèses. Ils sont censés être atteints grâce à des technologies qui n'existent pas encore à l'échelle, telles que la capture de carbone ou de combustible de substitution, dont les coûts sociaux et environnementaux sont trop élevés, très, très élevés, trop élevés, voilà. Alors, on est parfois un peu étonné, il faut un peu aller voir derrière les mots, quand on parle de carburant alternatif, écologique et tout le bazar, et puis on regarde ce qu'on met dedans, ok, c'est un carburant, et puis on voit qu'il y a de l'huile de palme. On cultive quelque part des arbres, par exemple des palmiers, pour pouvoir donner à manger à nos enfants. Non, à nos voitures, bien sûr. Même chose pour les camions militaires. Qu'on roule à l'huile à frites, ma foi, ok, c'est une façon de recycler l'huile à frites, mais qu'on ait spécialement cultivé, déforesté des forêts sauvages pour les remplacer par des plantations d'arbres qui vont servir à donner à manger à nos voitures, c'est de la folie furieuse, évidemment. Ça, c'est pas dans le rapport, c'est moi qui le dis, évidemment. Vous aviez fait la différence, bien sûr. En attendant, continue le rapport, l'armée continue de développer de nouveaux systèmes d'armes encore plus polluants. Par exemple, les fameux chasseurs F-35A, qui sont grands comme trois fois les F-16, consomment environ 5600 litres de pétrole par heure. Vous avez dit que c'était beaucoup, hein ? 5600 litres de pétrole par heure contre 3500 pour les chasseurs F-16 qu'ils remplacent. Ils sont beaucoup plus lourds, ils sont plus grands, etc. Ils sont beaucoup moins maniables, apparemment. Et les militaires ne sont pas nécessairement contents du choix fait par, entre autres, par la Belgique, en choisissant ces fameux F-35A. Comme les systèmes militaires ont une durée de vie de 30 à 40 ans, cela signifie qu'il faudra continuer d'utiliser ces systèmes très polluants pendant de nombreuses années. Aux joies dans les chaumières. En outre, les alliances militaires telles que l'OTAN ont clairement indiqué qu'elles ne compromettraient pas leur domination militaire pour lutter contre le changement climatique. Évidemment, hein, ça c'est facile, on rejette le truc sur les autres. Celui-ci, le changement climatique, n'est abordé dans les différents plans de sécurité nationale que dans les appels à augmenter les dépenses militaires pour faire face à cette menace, plutôt que comme la nécessité de réduire ou repenser leurs opérations. Alors, on a vu évidemment que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait... Un morceau de l'Ukraine, soyons corrects. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait exploser les dépenses militaires et leurs émissions par conséquence. L'utilisation des armes a aussi généré pas mal de pollution, sans parler de certaines armes controversielles ou des munitions fabriquées à base d'uranium appauvri, qui avaient fait discussion il y a bien longtemps, on en avait parlé à l'époque à plusieurs reprises dans l'émission La musique adoucit les mœurs, le sujet était revenu sur la table, brièvement en tout cas, avec ce conflit. En Ukraine, va-t-on utiliser là-bas, où utilise-t-on déjà des armes dont l'obus est fait avec de l'uranium appauvri? Ce qui était présenté d'ailleurs à l'époque comme une forme de recyclage des déchets, d'une partie des déchets en tout cas, des centrales nucléaires. Alors, comme vous l'avez remarqué, à peu près tous les pays membres de l'OTAN ont promis d'augmenter leurs dépenses militaires, d'enfin être au-dessus du seuil de 2% qui avait été indiqué il y a quelques années, qui est devenu une obligation. L'invasion russe de l'Ukraine, dit le rapport, en 2014 déjà, et en particulier l'énorme escalade depuis février 2022, a été utilisée pour approuver les augmentations majeures de dépenses militaires et par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre, sans la moindre prise en compte apparente des impacts climatiques, ni par la Russie, ni par les 30 pays membres de l'Alliance de l'OTAN. 30 pays, c'est pas de la tarte, évidemment. Alors, la Commission européenne estime que les États membres augmenteront leurs dépenses militaires d'au moins 200 milliards d'euros, en combinant des fonds supplémentaires ad hoc et des augmentations structurelles à plus long terme. Les États-Unis ont approuvé un budget militaire record de 840 milliards de dollars pour 2023 et la France a annoncé des dépenses militaires supplémentaires de 3 milliards d'euros en 2022. La Russie a approuvé, quant à elle, une augmentation de 27% de ses dépenses militaires depuis 2021, ce qui portera ses budgets à un total de 83,5 milliards de dollars US en 2023. Les objectifs climatiques ont été rapidement évacués au profit d'objectifs militaires. Rien qu'en 2022, 476 avions de chasse, parmi les plus gourmands en carburant, dont les fameux F-35, ont été commandés. 24 pour la République tchèque, 35 pour l'Allemagne, 36 pour la Suisse, 6 de plus pour les Pays-Bas, en plus des commandes précédentes, et 375 pour les États-Unis. Alors rien que le remplacement des vieux avions par les nouveaux, à 2000 litres en plus par heure, vous pouvez faire un beau calcul. Moi, je ne suis pas fort en calcul, donc je vous laisse le choix de le faire. Et un dernier point dans ce rapport, dans la présentation en tout cas de ce rapport, le résumé disons, c'est que la guerre détourne déjà aujourd'hui les ressources du financement climatique au profit des dépenses militaires. En juin 2022, le Royaume-Uni a transféré de l'argent de son budget de financement climatique pour contribuer au forfait de soutien militaire à l'Ukraine à concurrence d'un milliard de livres sterling. Le gouvernement norvégien, lui, a suspendu tous ses débours d'aide au développement, en ce compris le financement climatique, afin d'anticiper les conséquences potentielles de la guerre en Ukraine. Et le grand gagnant de cette explosion de dépenses militaires, je vous le donne en mille, c'est l'industrie de l'armement. On pourrait aussi citer l'industrie de la construction, parce qu'il va falloir reconstruire tout ce qu'on a démoli avec cet armement, évidemment, et reconstituer les stocks d'armement pour pouvoir faire face à une prochaine guerre ou à la guerre suivante, en tout cas. Donc, le grand gagnant, c'est l'industrie de l'armement, dit le rapport. L'industrie de l'armement est en plein essor grâce à l'augmentation mondiale des dépenses militaires et s'est diversifiée dans des secteurs comme le contrôle des frontières et la gestion de l'immigration. L'Agence européenne de défense a indiqué en 2021 que l'augmentation mondiale des investissements dans la défense a le plus fortement bénéficié à l'acquisition de nouveaux équipements au cours des dernières années. Après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, en particulier après que l'Allemagne a annoncé une augmentation de 100 milliards d'euros, les cours des actions des grandes entreprises d'armement se sont envolés. L'invasion totale, c'était l'invasion qui a été décrétée en 2022 et qui est en fait bloquée. C'est pas l'ensemble de l'Ukraine qui est occupée, évidemment, qui a été envahie, mais bien des morceaux contenus par l'armée ukrainienne, soutenue par au moins les 30 pays de l'OTAN et quelques autres, bien entendu. Eh bien, c'est un gros morceau, mais ça valait la peine, je pense, de vous proposer ce texte produit, je vous le rappelle, par Transnational Institute en collaboration avec Stop Weapon Handle, Typing Points North-South et soutenu par le GRIP ici à Bruxelles. C'était sorti le 11 mai, donc tout récemment. Et on va continuer cette émission, la musique adoucit les mœurs en chanson, évidemment, entre deux sujets. Mais je vous rappelle d'abord que vous êtes à l'écoute de Radio Air Libre et que cette émission, la musique adoucit les mœurs, vous est proposée tous les vendredis de 9 à 10 heures et rediffusée le samedi de 14 à 15 heures, toujours sur Radio Air Libre, bien entendu. Pour suivre une chanson que je ne vous ai jamais passée parce que je n'ai écouté le disque que hier. C'est un disque d'un groupe d'Electro Dark, paraît-il, qui s'appelle L'âme immortelle. Et sur son album Wieder die wie Wunderblüten, ou quelque chose comme ça, il y a un morceau intitulé Brother Against Brother. Les armées continuent à marcher, elles vont vers leur but mortel. Et moi, je suis dans les rangs et je meurs dans mon cœur, dans mon âme. Brother against brother, c'est l'âme immortelle. Et bien, après l'âme immortelle, on continue cette émission de la musique adoucit les mœurs sur Radio Air Libre avec en fond sonore Jerry Mulligan et Stan Getz dans Scrapper from Apple. C'est pas neuf, ça date de 1957. Presque aussi vieux que moi. Ou que cette émission, la musique adoucit les mœurs, mais là on est encore loin. Bon. Stan Getz et Jerry Mulligan qui vont me permettre de vous parler d'une organisation de paix qui existe au niveau international et qui a des branches dans toute une série de pays. Il s'agit du MIR, le Mouvement International sur la Réconciliation. Alors, c'est un mouvement non violent, donc on va en parler dans un instant. Il existe un peu partout dans le monde. Mais la section française, par exemple, va fêter son 100e anniversaire les 9 et 10 juin prochains, en fait créé 2 ans après l'organisation internationale, disons. Au programme du 100e anniversaire, un état des lieux et des discussions sur un siècle d'engagement avec Marianne entre Britannia et l'oncle Sam, la présence française dans le mouvement international de la réconciliation, mais aussi des discussions sur les engagements d'aujourd'hui autour de présentations de tables rondes, par exemple les enjeux de non-violence et de la réconciliation aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire, évidemment. Alors, vous pouvez trouver des renseignements sur le site du MIR France, M-I-R-F-R. Ça se passe donc pendant 2 jours, 2 jours consécutifs à Paris, le 9 au Palais du Luxembourg et le 10 à l'Institut protestant de théologie de Paris. Alors, ce deuxième rendez-vous donc des 2 jours peut paraître curieux pour certains. Eh bien, en fait, cela vient du fait que le MIR, la section française en tout cas, de cette branche, donc la branche française de l'International Fellowship of Reconciliation, autrement dit le mouvement international de la réconciliation, a été créé en 1923, précisément à la faculté de théologie protestante de Paris. Alors, le MIR se définit comme un mouvement non violent, inspiré de l'Évangile. Il travaille à l'élaboration et à la diffusion d'une théologie de la non-violence et entend lutter contre la guerre sous toutes ses formes. Son siège est à Paris. Il publie les cahiers de la réconciliation depuis 1926, d'abord mensuel jusqu'à 1985, ce qui fait quand même un beau parcours. Et aujourd'hui, donc, les cahiers de la réconciliation sont devenus un trimestriel. Alors, parmi les membres et les responsables, je vous cite quelques noms. Léonard Ragas, Henri Roser, André Trocmé, Magda Trocmé, Théodore Monod, Jacques Martin, le pasteur, pas l'animateur de radio, Jean Lasserre, René Crus, Jean Gosse, Hildegard Gosmer et Alfred Bourg, pour ne citer que ceux-là. Et on nous dit également que 2 des membres de la section française ont été présidents du mouvement au niveau international, à savoir Ambroise Monod et Marie-Pierre Bovy. D'autre part, le MIR, donc le Mouvement International de la Réconciliation, sa branche française en tout cas, est membre de la Fédération protestante de France et préside la Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. Et le MIR est également membre de cette association Coupole que constitue Non-Violence 21, fonds associatif pour une culture de la non-violence au XXIe siècle. Alors, en fait, d'où vient tout cela ? Ça vient de la Première Guerre mondiale et de l'horreur de cette horrible boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale. Et c'est pas que moi qui utilise le mot boucherie. Et donc, après la guerre, un certain nombre de gens se sont retrouvés une espèce de tourisme. Ils ont montré à leur famille, par exemple, les endroits où ils s'étaient battus, où ils avaient été blessés, où des camarades avaient été tués. Mais ça a été aussi une prise de conscience de la part de jeunes qui se retrouvaient parfois lourdement handicapés à cause des blessures de guerre, se retrouvaient sur le front et ont commencé à se parler. Il n'y avait plus de raison de se battre. Et donc, ils se sont rendus compte, l'aspect religieux n'a pas été un aspect négligeable dans cette rencontre, qu'ils croyaient au même Dieu, ils croyaient aux mêmes valeurs, et donc il n'y avait pas de raison de s'être battu pendant 3-4 ans, 5 ans même. Et donc, il y a une série de mouvements de paix qui en sont sortis. Je pense au Service civil international, fondé en 1920, donc en même temps, la même année que le MIR. Et je pense aussi au Mouvement chrétien pour la paix. Alors certains sont plus protestants, d'autres sont plus catholiques, etc. Mais je me souviens, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les Belges étaient derrière le front de l'Isère, comme vous savez, et étaient étiquetés catholiques. Ils n'étaient peut-être pas tous, hein. De l'autre côté des tranchées, la moitié du temps, du côté allemand, c'était les Bavarois qui étaient aussi étiquetés catholiques. Donc, même à ce niveau-là, ils auraient pu s'entendre. Voilà, il y a encore d'autres organisations dont on vous parlera à un autre moment. Et dans une prochaine émission, La musique adoucit les mœurs, je vous proposerai un petit portrait du Service civil international. On l'avait déjà fait en 1920 pour le 100e anniversaire, mais pourquoi pas revenir sur ces sujets-là. On devrait encore beaucoup plus travailler sur des organisations comme ça, ou leur donner les moyens d'agir, de mieux agir, de plus agir dans ces périodes de guerre internationale, pour ne pas dire mondiale. Pour détendre un peu l'atmosphère, je vous propose une chanson qui est une chanson humoristique, qui est due à notre camarade Michel Zarka, qui fait de la radio dans le temps, au sein des radios alternatives, entre autres, sur Radio Air Libre par la suite. Et il avait, avec son complice Jacques Jossard, commis un disque il y a bien des années. C'était le disque Le Plus Beau Pays, sur lequel on trouve toute une série de pastiches de chants militaires, dont Vive nos bataillons, que je vous propose d'écouter à présent.
Yeah.
Eh bien, après Stagiaire Onem et Vive nos bataillons, Jacques Jossard et Michel Zarka, deux solides compagnons, vocalise études en forme de Habaner de Ravel pour se dire au revoir, car on approche de la fin de cette émission. La musique adoucit les mœurs qui vous est proposée depuis de nombreuses années sur la bande FM, depuis bientôt 44 ans. Chaque samedi, chaque vendredi depuis de longues années aussi. Pour le moment, c'est le vendredi de 9 à 10 heures et le samedi, la rediffusion de 14 à 15 heures, comme c'était traditionnellement le cas depuis de longues années déjà. Je vous rappelle aussi que si vous voulez nous contacter, il y a moyen de le faire via la page Facebook de l'émission « La musique adoucit les mœurs ». Vous pouvez aussi nous écrire au 365A, chaussée d'Alsenberg, Alsenberg à 1190 Bruxelles, ou alors via l'adresse électronique de Radio Air Libre, Radio Air Libre en un mot, @skynet.be. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, dans quelques instants, la suite des programmes de Radio Air Libre.